9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
AVS à votre santé, bonjour et bienvenue. On commence la semaine par nous occuper de vous, avec le docteur Vladimir Mitz. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Alors, on va vous ouvrir votre micro, alors ça va être plus simple. Redites-nous un bonjour tonitruant.
Bonjour.
Non, ça fonctionne toujours pas, votre micro veut pas. Vous allez voir comme ça se passe en direct. On va changer les micros. J'espère que ça sera fait avant 10h, hein, parce que sinon on vous entendra pas. Voilà, alors je rappelle, tiens, puisque vous êtes là, que vous avez écrit « Comprendre les cicatrices, problèmes et vices de la cicatrisation » aux éditions du Cygne. Voilà, est-ce que votre micro...
Bonjour les auditeurs.
Ah voilà, là ça fonctionne parfaitement. Bien, pouvez-vous nous expliquer pourquoi quand on a une plaie et qu'elle cicatrise, la peau ne se remet pas comme avant finalement? Pourquoi ça ne ferait pas... comme si on collait, et puis, vous savez, comme dans les films de science-fiction, les gens, ils ont une espèce de laser ou de gel spécial, et ça se recolle parfaitement.
C'est la question la plus importante de ce matin, parce que cela fait partie de l'explication de comment cicatrise une plaie. Une plaie, c'est une rayure sur notre corps. Et cette rayure est programmée tout doucement pour se réparer. Et en fait, elle se répare parfois d'une façon remarquable si la cicatrice ou la plaie se trouve dans les lignes très spéciales des petites fissures qu'on a, qu'on appelle les sillons normaux. Et par exemple, il y en a au niveau du visage qui ont été décrits par un médecin qui s'appelle Langer. On appelle ça les lignes de Langer. Et donc, quand la cicatrice se trouve parfaitement située dans un sillon, eh bien, pratiquement, elle va devenir invisible après la cicatrisation, qui est un phénomène complexe. La cicatrisation, il y a des ouvriers qui arrivent en profondeur, qui amène du collagène, c'est une sorte de ciment. Il y a des cellules qui vont arriver, qu'on appelle les fibrocytes, qui vont organiser un petit peu ce ciment. Et puis c'est une fois que la partie profonde est rétablie, qu'en surface, il va y avoir une épithélialisation, c'est-à-dire que la couche la plus superficielle de notre peau va permettre progressivement de se rejoindre pour que la cicatrice devienne peu visible. Mais voilà, c'est que quand il y a une plaie, il n'y a pas seulement une coupure, il y a parfois un petit écrasement. La plaie n'est pas franche, elle peut décoller les berges. Et donc, il y a une partie des bords de l'épithélium qui va être traumatisée et qui ne va pas bien cicatriser. Et c'est ça qui explique qu'il reste une cicatrice.
Alors, il y a qu'à regarder nos genoux quand on est tombé, quand on était enfant, mais les coupures aussi, c'est plus ou moins réussi, hein, les cicatrices. Elles sont même parfois très moches et très visibles, d'ailleurs. Même avec le temps, eh ben, on en garde des traces à vie, hein.
Tout à fait, c'est une mémoire des événements désagréables que nous avons vécus, mais le rôle du chirurgien plasticien, c'est justement de savoir réparer des cicatrices qui sont disgracieuses. Il en existe de différents types, mais notre job au quotidien, c'est d'abord de faire les plus jolies cicatrices possibles quand on intervient, et puis si elles sont mauvaises, on les appelle ou vicieuses ou hypertrophiques, de savoir les réparer. D'ailleurs, j'en ai parlé dans un livre qui est publié chez Flammarion, qui est un livre important cette année, c'est « Chirurgie esthétique pour ou contre », où j'explique justement que l'art du chirurgien plasticien, bon, c'est vrai que le mot plastique, c'est pas génial, pas attribué à un chirurgien avec les tendances écologiques que nous connaissons actuellement, mais nous, nous sommes pour la biologie et l'écologie.
Oui, et vous êtes des jardiniers.
On est des jardiniers et des réparateurs de la plaie. Notre but, c'est de rendre les plaies les plus invisibles possibles, parce que si la plaie est peu visible, au niveau de la mémoire, de la souffrance qu'a enduré l'individu, eh bien, il en souffrira moins. Parce que n'oubliez pas que derrière une plaie, il y a eu un événement. Et cet événement, il peut être dramatique parce qu'il peut rappeler des choses terribles.
Moi, je pense qu'on peut imaginer les personnes qui ont eu des accidents de voiture, hein, qui ont eu des bouts de pare-brise sur le visage, hein, avec des cicatrices à vie, mais des accidents de la vie aussi, des accidents de ski, des accidents de vélo. Et ces gens-là se trimballent leur plaie, leur cicatrice toute leur vie.
Mais c'est vrai, mais ces cicatrices, parfois, au bout d'un moment, elles sont acceptées. En quelque sorte, le cerveau humain a cette capacité d'adaptation qu'il a acceptée comme une signature de quelque chose de mauvais qui s'est passé, et puis on est passé au-delà. À l'inverse, il y a des gens qui supportent pas les cicatrices. Moi, j'ai le souvenir d'un jeune homme, très beau garçon, qui avait eu un accident de voiture, comme ça, et qui avait des cicatrices que je trouvais pas très visibles, qui étaient autour de l'œil, simplement, au niveau de ce qu'on appelle la patte doigt. Eh bien, il a passé des années et des années pour tenter de les faire effacer, parce que, finalement, c'était pas la cicatrice qui l'embêtait. Il ne pouvait pas se pardonner le fait qu'il y ait eu cet accident dont il était responsable.
Oui, c'est pas parce que la cicatrice est bien pour le chirurgien qu'elle est bien pour celui qui l'a, parce qu'il peut se focaliser dessus et finalement il ne voit que ça.
Alors un des grands progrès de toute la chirurgie, c'est d'opérer sans cicatrice. Vous savez que les Français, nous sommes bien placés pour cela, parce que, par exemple, la chirurgie gynécologique a fait un grand progrès grâce à un médecin qui s'appelle Manès, et qui a inventé une chirurgie que l'on fait par des petits trous au niveau de l'abdomen pour éviter les grandes cicatrices que les gynécologues faisaient autrefois pour enlever l'utérus ou pour traiter les ovaires. Cette chirurgie endoscopique, ensuite, s'est développée dans le monde entier, et actuellement, une grande majorité des opérations à l'intérieur du ventre se font par célioscopie, c'est-à-dire qu'on fait une toute petite cicatrice au niveau du nombril, une ou deux petites cicatrices autour pour faire pénétrer des trocars, et même maintenant à l'aide de robots, on peut donc manipuler tous les tissus à l'intérieur du corps pour traiter le problème, mais laisser les plus petites cicatrices possibles.
C'est comme les césariennes quand elles se pratiquaient, vous aviez des énormes cicatrices.
Les cicatrices avant étaient faites d'une façon verticale. Ouais. Certaines femmes se sont retrouvées avec
des fermetures éclair.
Elles avaient le ventre en fesse même. Ouais. C'est une espèce de profondeur de la cicatrice, et comme il y avait un peu de graisse tout autour, ça crée une vallée profonde qui était insupportable. Le progrès était de faire des cicatrices décrites par un chirurgien allemand qui s'appelle Pfannenstiel. Ce sont des cicatrices au-dessus du pubis, et qui deviennent très très peu visibles, et puis maintenant de plus en plus aussi, les césariennes c'est une urgence, donc le problème de la cicatrice, il faut se dire que la cicatrice, on peut être obligé de la faire,
parce qu'il
faut aller au plus vite possible sauver l'enfant, mais quand on a le temps, quand c'est des césariennes programmées, eh bien tous les gynécologues font très attention à la cicatrice, parce que certaines femmes se plaindront d'une part de leur vilaine cicatrice, et d'autre part de leur grossesse difficile, mais la cicatrice restera le témoin de ce temps difficile à passer.
Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut intervenir sur ces cicatrices et les faire disparaître complètement ?
Alors presque. Il y a plusieurs processus. Par exemple, imaginez cette cicatrice qui est verticale en plein centre du ventre, au-dessous du nombril jusqu'au pubis, qui crée une sorte de vallée. Alors il y a une méthode que j'avais mis au point il y a quelques années, que j'ai appelée la cigarette dermique. Ça consiste à enlever la surface de la peau, à inciser de chaque côté comme un fuseau, à replier le fuseau sur lui-même pour créer une épaisseur. En fait, le chirurgien doit recréer un socle. Et puis ensuite, en décollant la peau sur les côtés, on peut la rapprocher et faire une cicatrice qui deviendra comme une ligne. Et ainsi, on s'en est fini avec cette vallée disgracieuse, c'est une ligne. Et alors, comment faire encore pour faire mieux disparaître cette ligne à la fin? On a deux procédés possibles. Il y a le ponçage, ce qu'on appelle nous la dermabrasion, et il y a aussi le laser. Le laser ne fait pas plus que chauffer la surface de la peau, un peu comme si on crée un vernis en surface à la suite d'une brûlure, et la cicatrice va devenir presque indistincte. Et donc il y a des moyens très modernes pour traiter les cicatrices, mais ça prend du temps. Le problème, c'est aussi l'argent. Il y a pas mal de choses à considérer en ce qui concerne le traitement des cicatrices. Mais pour tous vos auditeurs ou auditrices qui ont des cicatrices qui sont disgracieuses ou qu'elles ne supportent pas, il y a des moyens. Mais le pire pour nous, ce sont les cicatrices qui sont contraires aux lignes de moindre tension de la peau, ce qu'on appelle les lignes de Langer, ou des cicatrices qui sont perpendiculaires à ces lignes de flexion des tissus, parce que celles-là, il va falloir en plus utiliser une astuce de chirurgien esthétique et plastique, c'est ce qu'on appelle la plastie en Z, vous savez, une espèce de petit truc astucieux qui permet de briser la ligne de la cicatrice, au lieu de qu'elle soit horizontale, par exemple, ou verticale, eh bien on va la rendre ondulée. Et le fait de la rendre ondulée va lui donner un peu plus de possibilités, comme un ressort, pour suivre les mouvements de la peau, et elle sera moins visible.
Elle est moins visible. Alors, vous expliquez dans votre livre « Comprendre les cicatrices » que la façon dont on cicatrise, c'est génétique. Il y a des gens qui ont une peau qui cicatrise très très bien. Je me suis arrêté parce que je viens d'avoir une vision terrible de quelqu'un qui montrait son ventre, et donc docteur, qui vous avez montré. Mais je vais donc me tourner vers mon micro. Mais il y a des peaux qui cicatrisent bien et des gens qui cicatrisent très très mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une inégalité dans la façon dont on cicatrise?
Je ne dirais pas que c'est une inégalité, mais c'est une programmation. Par exemple, certains patients qui sont originaires d'Afrique, qui sont donc noirs, ont cette capacité d'avoir une peau qui est très épaisse. Et cette peau qui est très épaisse, quand elle est coupée, elle ne va pas cicatriser d'une façon linéaire, mais elle va faire une espèce de bourrelet qu'on appelle une kéloïde. Alors ces kéloïdes, elles avaient une valeur autrefois parce que certains membres des tribus voulaient avoir des signes distinctifs et ils se faisaient des incisions sur la peau qui étaient caractéristiques de leur tribu.
Ça ressemble à des scarifications.
C'est comme des scarifications, mais du fait que leur peau cicatrisait d'une façon génétique en faisant des cicatrices hypertrophiques, donc très noires, très épaisses, facilement identifiables, eh bien, ils appartenaient à un clan. Mmh. Et donc, tout n'est pas mauvais dans ces cicatrices. Par contre, quand ces patients arrivent en Europe, mmh. et s'ils font des cicatrices kéloïdes, et ils sont très malheureux, parce que ça, ils n'ont pas besoin d'être
oui. identifiés
ouais. comme membres d'un ouais, clan. Donc, que ce soit au niveau mmh. du visage ou mmh. du corps, ces cicatrices posent un gros problème.
Qu'est-ce qui explique que certaines cicatrices soient colorées, en tout cas, et des couleurs qui soient différentes de notre peau d'origine ? Elles soient ou plus foncées ou plus claires ?
Alors, les cicatrices, elles ont des saisons. Au début, quand on les fait, c'est une cicatrice banale. De chaque côté, on voit la peau normale et la cicatrice. Et petit à petit, à cause de ce travail que je vous ai expliqué en profondeur, elle va rosir. La cicatrice va prendre une allure plus rose.
Pourquoi ? Plus rose ou plus foncée.
Parce qu'il y a des vaisseaux ouais. sanguins qui arrivent, donc qui amènent des tissus, un peu comme si Chronopost amenait des colis pour les déposer. Et donc, il y a une période où la cicatrice est rose. Ensuite, cette partie rose qui est centrale va gonfler un tout petit peu parce qu'il y a un travail qui est colossal.
Elle boursouffle.
Voilà, on appelle ça le stade de la cicatrice qui est hypertrophique. Et c'est un moment désagréable pour les patients. Parce qu'ils ont envie de se gratter, ils ont envie de la toucher. Et c'est une bonne réaction d'ailleurs, parce qu'on sait que le traitement de ces cicatrices hypertrophiques, ça consiste à les masser, à appuyer, parfois même à faire des plaquages avec un produit siliconé qui va les écraser un peu. Et puis ensuite, petit à petit, avec le temps, la couleur va encore changer. C'est une autre saison de la cicatrice, elle peut devenir blanche.
Justement, c'est ça.
Elle peut blanchir, et ça c'est un gros problème. Certains patients, notamment de race européenne, ont la capacité d'avoir des cicatrices blanches. Pourquoi ? C'est une question qui est
intéressante. Mais beaucoup plus blanche que leur peau d'origine.
Beaucoup plus blanche que la peau d'alentour.
Et ce qui fait qu'on la voit. Elle est presque pas transparente, mais voilà.
Eh bien voilà, pourquoi Parce que les cellules épithéliales vont aller trop vite. Elles vont se refermer trop vite. Et les cellules colorées, qu'on appelle les mélanocytes, n'ont pas eu le temps de monter à la surface. Et donc on se retrouve avec une cicatrice qui est très claire, parfois très visible, par exemple, certaines patientes qui ont eu des liftings magnifiques, c'est-à-dire des opérations de rajeunissement, eh bien après elles sont ennuyées parce que les cicatrices normalement invisibles qui sont autour de l'oreille ont une coloration blanchâtre qui les trahit. Alors elles nous demandent, mais faites quelque chose, faites quelque chose. On peut faire deux choses. Il y a deux solutions à cela. Il y a d'une part des tatoueuses professionnelles qui petit à petit, par des petits tatouages, arrivent à exactement refaire la couleur de la peau de voisinage au niveau de la cicatrice. Et puis à nous, chirurgiens, on fait ce qu'on appelle des multipiqûres. C'est-à-dire, en fait, on fait des petites piqûres dans la cicatrice et on fait remonter les mélanocytes. On leur crée des petits puits par lesquels ils peuvent remonter. Donc là aussi, on a cherché, on a trouvé quelques solutions.
Sinon, vous coiffez au carré pour planquer les cicatrices. Beaucoup de gens qui se coupent, par exemple, ou qui ont une coupure ou une plaie, aiment bien se gratter quand il y a des croûtes. Est-ce que c'est bon ou mauvais pour les cicatrices, ça ? Ou est-ce qu'il faut vraiment laisser la croûte telle qu'elle est et attendre qu'elle tombe d'elle-même ?
Alors, l'idéal, c'est de respecter le processus naturel de cicatrisation. La tendance normale de l'homme, c'est est-ce que je peux accélérer la cicatrisation ? Une cicatrisation, ça va prendre en gros 3 semaines. Est-ce que je pourrais le faire en 8 jours ? Et donc, l'apparition des croûtes qui énervent, qu'on enlève, n'est pas une bonne solution, parce que, automatiquement, en enlevant ces croûtes, on va faire saigner un tout petit peu d'une même façon microscopique, une nouvelle croûte va se former, et on crée ainsi un cercle vicieux. Alors, par contre, ce jardinage, en quelque sorte, de la cicatrice, dépend s'il y a une cicatrice qui est normale, ou si elle est infectée, ou si elle est pathologique, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Donc, il y a une gestion de la cicatrice, qui peut être au mieux conseillée par un médecin, ou par un chirurgien plasticien, parce que il connaît par cœur, en quelque sorte, les processus, les stades de la cicatrisation.
D'accord.
Et il peut aider.
Donc, on ne gratte pas, mais cette cicatrice, il faut la laisser à l'air libre ou il faut la protéger par un pansement ?
Alors, au début, on la protège. On la protège justement parce qu'on essaye de faire une deuxième peau très supportable pour le patient pour pas qu'il gratte. Tout ce que vous décrivez, c'est vraiment très, très vrai. On a tendance à toucher sa cicatrice, ne serait-ce que par un geste automatique.
Oui, c'est automatique.
Incontrôlable. Et donc, on fait un petit pansement qui est en fait perméable à l'air, mais qui va la protéger pendant quelques jours. Et ensuite, le but est le plus vite possible de la mettre à l'air. Il y a un slogan qui était fameux, c'est que l'air est le meilleur ami de la cicatrice. Et il y a eu des pansements qui ont été faits selon ce principe, qui sont très, très, très utiles.
Urgot.
Oui, enfin, il y en a d'autres maintenant. Mais laisser la cicatrice à l'air est quelque chose qui est très important, alors qu'à l'opposé, certaines marques pharmaceutiques, certaines firmes pharmaceutiques, essayent de promotionner des produits qui feraient cicatriser plus vite. On rêve de laser, de rayons mystérieux, de gourous qui feraient en sorte que la cicatrice aille plus vite en cicatrisation.
Dans les films, dans les films d'anticipation, il n'y a pas de sang. Hein. La cicatrice, elle se referme. C'est tout comme une espèce de colle qu'on pose sur le bras ou sur la partie qui est coupée. Et hop, tout de suite, la peau se remet. Hein.
Alors, on n'en est pas loin, Jean-Luc, parce que actuellement, on fait des
recherches. Jean-Luc, si je vous appelais Martin. D'accord. Mais bon.
Le problème, c'est qu'on essaye de trouver des substances qui sont créatrices, en quelque sorte, d'une cicatrisation un peu plus rapide par des manipulations biochimiques, par des sortes d'hormones que l'on mettrait en place pour accélérer, en quelque sorte, la venue et la prise du collagène sur place. Mm. Donc, ce sont des travaux qui sont en cours. Et ensuite, c'est vrai qu'en utilisant un laser qui chauffe en surface, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut améliorer un tout petit peu la qualité de la cicatrisation de surface.
Bon, on n'en est pas encore dans la cicatrisation des films de science-fiction, mais ça se rapproche. Si vous voulez poser vos questions au docteur Vladimir Mintz ce matin, profitez-en, chirurgien plasticien, réparateur et esthétique. Jardinier, on verra pourquoi tout à l'heure. On parlera aussi des cicatrices, vous savez, des boutons d'acné tout à l'heure. Je vous rappelle le numéro du standard 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
À votre santé, reviens dans un instant. 9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Avec notre invité aujourd'hui, le docteur Vladimir Mintz, qui est chirurgien plasticien, réparateur et esthétique. Vous avez écrit un livre, vous en parliez tout à l'heure, hein. Chirurgie esthétique pour ou contre, c'est chez Flammarion. Ça s'intéresse au ratage de la chirurgie esthétique. Et puis vous avez écrit un livre qui est passionnant pour comprendre le mécanisme de la cicatrisation et de ce que c'est que la peau. Ça s'appelle « Comprendre les cicatrices, problèmes et vices de la cicatrisation » aux éditions du Cygne. Et vous posez vos questions en direct au 01 53 48 3000. On parlait du poids de la peau de Kim tout à l'heure avant cette émission. La peau, c'est un organe qui est lourd. Alors, on va dire que pour un homme de 1m80 et pour une femme d'un 1m60, il y a combien de peau ?
15 kilos.
15 kilos. Mais pour les deux, ou c'est...
Non, c'est très variable en fonction de la grandeur, de la surface corporelle. Mais c'est un poids qui est très important. Et la peau elle-même est un organe. C'est-à-dire qu'on pense que c'est simplement une enveloppe. Mais elle vit, elle sécrète de la graisse, elle sécrète du sébum, elle donne des sensations parce qu'elle comporte un grand nombre de récepteurs de la sensibilité et de la douleur. Et donc c'est un organe extrêmement complexe.
C'est un peu comme un millefeuille, hein. Ce que vous expliquez, c'est qu'il y a différentes couches. Il y a combien de couches précisément ?
Il y a sept couches différentes. Oui. Mais surtout, ce que je voudrais que les auditeurs aussi comprennent, c'est que les cellules qui ont donné le cerveau et les neurones ont donné la peau. Et donc il y a un rapport très étroit entre notre cerveau, nos pensées, notre quotidien et notre peau. C'est pour ça, par exemple, quand une femme voit un homme qui lui plaît, elle peut rougir, ou l'inverse. Hein. Ou bien, parfois, quand on a une émotion forte, on peut attraper des maladies, de l'eczéma, parce qu'on fait une espèce d'auto-allergie et qu'il se produit des phénomènes sur notre peau, mais qui ont une origine psychosomatique, c'est-à-dire que c'est notre cerveau qui va générer des réactions néfastes.
Alors, Farida est au 01 53 48 3000. Farida, bonjour et bienvenue.
Bonjour, voilà. Non, parce que moi, je vous appelle pour vite fait, pour deux choses. Pour moi déjà, vous savez, quand j'avais 18 ans, j'ai eu l'acné. Et j'ai eu l'acné, donc je ne sais pas. Les cicatrices sont restées. Et moi, je me pose la question, parfois, je me dis, bon, je vois qu'un petit peu, ça a diminué. Est-ce que j'ai un espoir que ces cicatrices disparaissent un jour ? Vous savez, les traces d'acné qui restent sur le visage, vous connaissez ça, vous savez ?
Mais là, vous avez quel âge, Farida, aujourd'hui ?
Ben, j'ai 57 ans.
Alors c'est tout à fait possible.
Votre puberté est terminée déjà, 57 ans, on est tranquille.
Oui, là, mais c'est... quand même, ça m'a touchée, vous savez, quand vous êtes jeune. Ah tiens, les remarques des personnes, vous voyez, qu'est-ce que t'as au visage. Vous voyez, j'ai connu ça hein, quand j'étais jeune. Hein, chaque fois que on m'a vraiment embêtée pour l'acné. Hein, mais j'ai pas compris parce que j'ai eu l'acné, des grosses boutons rouges, vous voyez. Ouais. Et je savais pas quoi faire. Et à cette époque-là, vous savez, en Algérie, on n'avait pas assez de dermatologues. Ils nous donnaient que du savon au sucre. On se lavait avec ça et puis voilà. Il me disait de ne pas manger de chocolat, pas manger de ça, ne pas manger du beurre.
Alors, on a fait des grands progrès dans l'amélioration des séquelles d'acné et aussi des séquelles de varicelle, parfois, qui donnent des petits... qui donnent des dépressions cutanées. Et en fait, on va essayer de soigner chacune des composantes qui créent la cicatrice disgracieuse. Si elle est en creux...
Alors, attendez, parce que là, tout à l'heure, on a vu la cicatrice des coupures, mais là, on parle de cicatrice de boutons.
De boutons.
C'est quoi la différence de cicatrice de boutons ?
Ce sont des cicatrices en creux. essentiellement en creux, visible et surtout très visible en lumière rasante, et difficile à maquiller parce qu'il faut une couche très épaisse de maquillage pour qu'on ne les distingue pas. Et donc le principe est d'une part de relever le creux. Comment est-ce qu'on fait pour relever le creux? On dispose de deux moyens. On a des micro-injections d'acide hyaluronique, qui est un produit qu'on a déjà à l'intérieur de notre corps, qui permet de repulper. Et dans les creux importants, donc cela aide à relever un peu la cicatrice. On peut aussi utiliser des petites greffes de graisse, ce qu'on appelle le micro-lipofilling. On prélève des toutes petites cellules graisseuses, plus petites qu'une graine de couscous, et on va la placer en profondeur sous la cicatrice d'acné, ou sous la cicatrice qui est en creux, pour la remonter un peu. Et puis ensuite, on additionne ce qu'on appelle un traitement de surface. Et donc là, soit on peut faire des dermabrasions, sur certaines peaux c'est préférable de faire une dermabrasion qui consiste à prendre une meule rotative, un peu comme le dentiste quand il nous nettoie les dents.
Oui, ce petit bruit qu'on aime tous.
Voilà. Ouais. Et donc, on passe cette meule rotative sur la peau d'une façon très douce pour ne pas aller trop profondément, pour égaliser en quelque sorte la surface. Et on peut aussi utiliser le laser, notamment le laser CO2, qui est un laser extrêmement puissant, donc il faut bien savoir le manier, et qui lui a la propriété de vitrifier un peu en surface. Et donc en fonction de chaque cas particulier, du nombre de petits creux qu'il y a sur la peau, de l'irrégularité de la peau, on va choisir cette méthode-là ou une autre méthode pour atténuer en quelque sorte les petits creux et le grain de la peau est inégal.
Mais pour quel résultat alors ?
Alors les résultats sont bons, mais parfois il faut s'y reprendre deux ou trois fois. C'est un travail quand même d'assez grande patience. C'est un peu comme une ménagère qui essaye d'enlever toute la poussière et de rétablir l'égalité du sol sur lequel on marche. Il peut parfois être nécessaire de faire plusieurs séances, mais grosso modo on peut donner un espoir d'amélioration de presque 80% chez ces
personnes. Ah oui.
D'accord. Excusez-moi, je voulais vous poser une question, je ne sais pas si c'est votre domaine, parce que mon fils, il a des petites plaques, vous savez, au niveau de sa tête, il a été voir des dermatologues, ils m'ont dit que c'est de l'acné, mais moi j'ai l'impression, est-ce que l'acné c'est normal, il n'y a plus de cheveux, c'est des plaques blanches, c'est de l'acné qui fait ça?
Probablement pas, vous avez raison madame, je pense que c'est exceptionnel que de l'acné donne des plaques au niveau du
il
crâne.
Il n'a pas de cheveux, les cheveux qui ne poussent pas. Vous voyez, vous avez les grosses plaques blanches comme ça sur la tête.
Non, c'est probablement plutôt un eczéma. Et rapprochez-vous d'un dermatologue
d'un bon dermato, hein.
Oui, qui fera le traitement parce que ça se soigne très bien. Il y a aussi du psoriasis. Ça peut être aussi un psoriasis. Bref, ce sont des maladies dermatologiques qui se soignent et il ne faut pas le laisser comme ça.
D'accord, je vais voir avec lui. Ben merci beaucoup. Les masques, ça ne sert à rien sur le visage. Si ça sert un petit peu.
Non, mais pour les boutons, vous voulez dire.
Non, pour moi, les masques, ça peut resserrer les pores, tout ça, c'est bon.
Si, bien sûr, il y a plein de traitements que font les esthéticiennes et qui sont extrêmement utiles parce que leur travail, c'est de décaper la surface de la peau exactement comme une femme de ménage ou un ouvrier dans la ville qui balaye les feuilles mortes. Il y a des feuilles mortes de la peau qu'il convient dans certains cas d'enlever.
D'accord.
Bon.
Ben, je vous remercie beaucoup, monsieur.
Restez belle, Farida.
Merci, c'est gentil, au revoir.
Gros bisous, Marcel est avec nous, 01-53-48-3000. Marcel, bienvenue.
Bonjour monsieur, bonjour docteur.
Bonjour Marcel.
Alors voilà, je vous explique, j'ai 70 ans. Il y a 22 ans, j'ai fait une réduction mammaire qui a été un échec total. Je n'ai plus de mamelon du tout. Il est tout acheté et je voulais savoir si il y a quelque chose à faire pour redonner de la couleur au mamelon, quoi.
Eh bien, chère madame, oui, ça leur fait partie de toute une partie de l'émission que nous voulions faire avec Philippe, parce que la reconstruction des seins est à l'ordre du jour. D'abord, c'est Octobre Rose. Alors, on va peut-être le développer un petit peu plus tard, mais dans votre cas très précis, oui, c'est possible de refaire un mamelon. On peut le refaire de deux façons, soit par tatouage, mais je trouve que c'est un travail plutôt de peintre, décorateur, et ce n'est pas plus que ça. Et personnellement, je préfère une reconstruction totale de l'aréole et des mamelons. La technique que j'ai mise au point il y a maintenant presque 30 ans consiste à prendre un petit peu de peau à l'intérieur de la cuisse, pas loin des lèvres génitales, parce que la coloration est rosée. On prélève une espèce de petite circonférence que l'on va greffer pour remplacer l'aréole. Et pour refaire le téton lui-même, on a deux possibilités. S'il y a un téton qui est de bonne alloi de l'autre côté, on va prendre un quart du téton normal et on va le greffer. On appelle cela une greffe composée. Et s'il n'y a pas de téton, eh bien on peut prendre un lobule de l'oreille Cela ne laissera pas de cicatrices vilaines sur l'oreille. Vous pourrez toujours porter des boucles d'oreilles, mais on peut refaire un téton qui saille. Et certaines femmes sont très fières, reconstruites ainsi, de ne pas mettre de soutien-gorge et de montrer, même après une destruction de leur aréole et de leur téton, qu'elles ont deux tétons qui pointent sous le t-shirt.
Ah bon ? Ah ben... Et alors, c'est dur comme intervention ?
Non, madame, ce n'est pas dur. Ce sont des opérations relativement légères et votre âge n'est pas une contre-indication.
D'accord.
Bon, ah, peut-être que Marcel ne met plus de t-shirt à même la peau, mais bon, ça, j'en sais rien.
Si, mais bon, pas visible, hein, pas transparent,
voilà,
évidemment.
Voilà, c'est ça, bien sûr.
Pas visible. Mais, ok, écoutez, je vais prendre vos coordonnées.
Ah ben alors ça on peut pas les donner, vous savez, parce qu'il y a un conseil de l'ordre, mais bon, avec un bon Minitel, j'allais dire, avec un bon ordinateur, vous pouvez trouver les coordonnées du docteur Vladimir Mitz.
Vladimir
Mitz, M-I-T-Z.
D'accord, ok, merci beaucoup.
Merci Marcel.
Au revoir.
Alors justement, c'est Octobre Rose, docteur Mitz, et vous déconseillez à toutes les femmes de se faire enlever les seins par prévention.
Alors, cela vient de mon éducation hospitalière dans un hôpital de l'assistance publique, à l'hôpital Boussicault, où nous faisions la chirurgie réparatrice. Et dans le service qui était en face du nôtre, il y avait un chirurgien qui s'appelle Régnier, qui était un des papes de ce qu'on appelle les mammectomies sous-cutanées. Ce sont des opérations qui ont été très à la mode dans les années 80, parce que l'idée a été que l'on pouvait prévenir l'apparition du cancer en enlevant la glande mammaire chez certaines patientes. Et ce type de...
Alors c'était bien, alors, vous voyez, en 1980, on est bien avant Angelina Jolie. Hein.
Bien sûr. Ouais. Et ensuite, petit à petit, ces opérations ont été considérées comme peut-être utiles chez des patientes chez lesquelles on a découvert une susceptibilité génétique particulière. Et dans les centres de génétique, lorsqu'une patiente a des gènes BCR1 et 2 qui sont positifs, eh bien, il pose la question et certains chirurgiens acceptent, parce que c'est déontologiquement...
C'est breast cancer 1 et breast cancer 2, bon, voilà,
eh bien, l'idée est d'enlever complètement la glande mammaire en laissant l'enveloppe, c'est-à-dire la peau, l'aréole et le mamelon, un peu comme si on vidait un œuf en laissant...
En cure, quoi.
Voilà, en laissant la coquille. Mais on leur dit bien qu'en faisant ce geste, apparemment serait préventif, qu'il y a quand même un risque de cancer, parce que ne serait-ce que du fait qu'on laisse l'aréole et le mamelon, il y a des petits conduits galactophores qui restent et qui peuvent donner un cancer. Et personnellement, à l'époque, quand je travaillais dans le service de chirurgie réparatrice, nous avions beaucoup de ces patientes qui avaient eu des mammectomies sous-cutanées et qui avaient des séquelles épouvantables, parce qu'elles n'étaient pas contentes. On leur disait... Vous allez vous endormir, on va enlever votre glande et vous retrouvez avec deux seins plus beaux qu'avant. Et elles se retrouvaient avec des seins qui étaient durs, c'est des seins siliconés, qui n'étaient pas naturels. Elles étaient malheureuses toute leur vie. Et donc ma réaction a été de dire, tant qu'il n'y a pas de cancer, il n'y a pas de cancer. Nous avons maintenant les moyens scientifiques pour étudier la glande mammaire, pour faire des biopsies. S'il y a un cancer, il faut faire le traitement cancéreux, anticancéreux qui s'impose. Mais tant qu'il n'y a pas de cancer... Mesdames, s'il vous plaît, gardez vos appâts qui peuvent servir et vous plaire.
Il y a des familles où le cancer est très présent, notamment le cancer du sein, et les femmes vivent avec cette épée de Damoclès du cancer. Donc elles peuvent avoir des formes de psychose par rapport à ça.
C'est vrai, et d'ailleurs, ces opérations sont proposées plus à visée psychologique. L'ablation des glandes mammaires, comme chez Angelina Jolie, c'est proposé plus à visée psychologique que thérapeutique. Mais je trouve que traiter un problème d'angoisse ou de psychologie par une opération qui est quand même brutale n'est pas justifié. Je pense qu'il vaut mieux dire à ces femmes, vous pouvez surveiller 2-3 fois par an si vous êtes angoissé, mais les médecins sont là, les moyens de surveillance sont là, il n'est pas nécessaire de vous mutiler pour soulager votre angoisse.
01 53 48 3000. Redouane est avec nous. Redouane, bonjour et bienvenue.
Bonjour Philippe, bonjour docteur. J'ai une question à poser au docteur, s'il vous plaît.
Ah, ça tombe bien, il vous écoute, Redouane.
Lorsque je suis retourné des vacances cet été, j'ai eu des taches sur le bras, blanches.
Des taches de quelle couleur ?
Blanches.
Mais...
Le bras, elle était bronzée, mais il y a des taches blanches qui se voient.
Alors, il y a deux raisons à cela. Parfois, cela peut être une simple mycose que l'on attrape facilement sur les plages. Ce sont des taches blanches qui sont sur les bras, mais qui peuvent aussi exister dans le dos ou sur le thorax. Donc, pour cela, c'est facile. Il faut consulter un dermato qui fera un petit prélèvement. Et s'il y a une mycose, ça se traite pour une lotion. Ça peut être une autre cause. Ça peut être une perte de la couleur normale de la peau, ce qu'on appelle un vitiligo, qui est une maladie très bizarre, qui est d'origine psychosomatique.
C'était pas la maladie qu'avait Michael Jackson ?
Tout à fait. C'est une maladie où des taches blanches apparaissent sur le corps. Chaque fois qu'il y a un choc psychologique, il y a une tache qui en est le témoin et qui apparaît. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué à traiter. Actuellement, on n'a pas le moyen de recolorer ces taches qui sont quand même parfois assez importantes. Et il faut demander alors à une tatoueuse professionnelle de recolorer la tache pour obtenir une peau qui ressemble un peu à la peau d'alentour.
Mais alors vous, Redouane, c'était très étendu, votre tache blanche, ou c'est très localisé ?
Très localisé. J'ai trois taches. Une petite, une grosse et l'autre moyenne.
Et vous n'avez rien dans le dos, rien sur le thorax ?
Le dos, j'ai des petites taches. Lorsque j'ai vu mon médecin traitant, il m'a dit que c'est des champignons. Il m'a donné le traitement et ça n'a pas fonctionné.
Bah, retournez le voir, parce qu'il y a des traitements plus puissants. Il y a parmi ces lotions qui sont antifongiques, ces anti-champignons, des divers degrés de puissance, et parfois il faut augmenter la puissance, ou vérifier aussi que vous n'avez pas contaminé votre lit, vous n'avez pas contaminé votre entourage immédiat ou vos vêtements, parce qu'il y a aussi
un nettoyage. Parce que c'est contagieux, c'est ça ?
Tout à fait.
D'accord.
D'accord. Merci, très gentil.
Mais merci Redouane pour votre question. Merci. À bientôt. Allez, on prendra d'autres appels dans un instant. On a le temps là maintenant ou pas ? Bon, on a le temps. Alors, Tariq est avec nous. Tariq, bonjour et bienvenue.
Bonjour Philippe, bonjour monsieur docteur, j'ai oublié le nom.
Alors, Vladimir Mits, Tariq,
Vladimir,
on vous écoute.
Ok, moi c'est ma question, j'ai eu une cicatrice, j'ai tombé quand j'étais petit, à l'âge de 4 ans, 5 ans, là, ça fait 30 ans de ça. Et j'ai pas soigné, j'ai toujours la cicatrice au-dessous de l'œil. Est-ce que ça peut guérir avec le temps? Est-ce que ça peut enlever? C'est quoi le traitement? C'est quoi? Il y a quoi à faire?
Pouvez-vous Tariq, pouvez-vous décrire votre cicatrice?
C'est à côté de l'œil gauche, en dessous.
Ah, en dessous de l'œil.
Ouais.
Et quelle était l'origine de l'accident?
Ben, c'était, vous savez qu'on était jeunes, on jouait, et c'était sur une boîte de conserve.
Donc c'était une coupure.
Voilà. Elle était toute petite quand j'étais petit, maintenant je suis grand, j'ai fait 1m87, et ça a grandi avec.
Et vous avez quel âge, Tariq?
J'ai 43.
Alors très certainement, votre cicatrice peut être améliorée. Vous habitez dans quelle ville?
Je suis en 95, à Sarcelles.
Eh bien, écoutez, il y a des centres médicaux, il y a des chirurgiens plasticiens qui sont sur place. Allez les consulter, parce que notre job, c'est justement d'améliorer ces cicatrices.
Mais attendez, Tariq, vous avez 47 ans. Votre cicatrice...
Non, 43.
Mais bon, je vous vieillis, 43 ans. Bon, votre cicatrice, ça fait 30 ans que vous vivez avec. Qu'est-ce que vous avez... Vous avez vraiment besoin de la faire toucher maintenant?
Non, parce que c'était l'occasion d'écouter cette émission. Et j'ai dit, pourquoi pas, je vois les éditeurs qu'ils ont appelés par rapport à leur... Comme la dame qu'elle a appelée avant, ça fait des années qu'elle a la clé. Alors, je dis, pour moi, pourquoi pas, quoi.
Mais vous préféreriez être sans, finalement, votre cicatrice.
Voilà. Ça me gêne pas. Je dors tranquille. C'est pas un souci pour moi. Mais des en cas où.
Mais voilà, derrière toute cicatrice, il y a une souffrance. Il y a quelqu'un qui voudrait effacer un accident dont il a un très mauvais souvenir.
Voilà. C'était un souvenir, c'est pas un accident grave, mais c'était un jouet avec des amis, des cousins et des cousines. Quelqu'un m'a poussé, j'ai tombé, voilà. Jouait à cache-cache, et ça restait juste un peu, pas trop. Parce que quand j'ai fait les photos pour les identités au passeport, ça paraît niant. Vous voyez ce que je veux dire?
Ça fait Scarface, un peu.
Voilà.
Bon, bah écoutez, Tariq, oui, on peut, alors, docteur Mitz, on peut intervenir sur une cicatrice qui a 30 ans et obtenir des bons résultats. Oui. Merci, Tariq.
Merci, au revoir, bonne journée.
On continue à raconter l'histoire de la peau avec le docteur Vladimir Mitz. Je rappelle que si vous avez des questions, vous pouvez les lui poser en direct au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
À votre santé, reviens dans un instant. 9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beur FM.
On parle des cicatrices avec le docteur Vladimir Mitz. Comprendre les cicatrices, un livre que vous avez écrit aux éditions du Cygne. C'est passionnant parce qu'on se rend compte que finalement, quand on tombe, quand on se coupe, tout ça, on pense jamais à la cicatrice qui va suivre. C'est quelque chose, c'est même pas un sujet. Alors qu'on devrait s'en occuper quand même. Hein. C'est important de que tout soit bien net, bien propre. Voilà, c'est pas rien de cicatrice, parce qu'après on va vivre ensemble, comme le disait Tariq tout à l'heure, pendant 30 ans, quoi. Facilement.
Oui, la cicatrice, c'est la marque d'un passé douloureux. Et le chirurgien, parfois, c'est la promesse de lendemain qui chante un peu plus. Mais pas toujours, parce que la cicatrisation reste un phénomène qu'on ne domine pas.
Multifactoriel.
En plus, il y a quelque chose... On voit toujours la cicatrice, mais nous, en tant que chirurgien plasticien, il y a un autre domaine qui est très important dans notre pratique, c'est les plaies. C'est la plaie, c'est pas seulement une cicatrice, c'est parfois ce qu'on appelle une perte de substance. C'est-à-dire qu'il manque un bout de tissu, il manque un bout de peau, il manque un bout de muscle, il manque un bout d'os. Et tout l'art du chirurgien plasticien, c'est de savoir réparer ses plaies pour qu'à la fin, la cicatrice finale
soit belle
et ne laisse même pas imaginer tous les dégâts qu'il y a eu en profondeur. Et c'est ça qui fait la noblesse de notre métier. C'est ce qui fait que le chirurgien plasticien est peut-être le chirurgien le plus appelé en temps de guerre, parce qu'on doit être capable de réparer tous les dégâts.
C'est qu'à dire, dans ces cas-là, c'est réparé. Hein.
C'est réparé. Et la cicatrice, elle en sera une rançon de cette réparation.
Sabrina nous rejoint au 01 53 48 3000. Sabrina, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour. Excusez-moi, je voulais vous poser une question. Peut-être que le médecin pourra me répondre, parce qu'en fait, j'ai eu deux grossesses et j'ai eu des taches brunes sur le visage, mais énormes sur le front. Et j'aurais voulu savoir si ça se soignait, ça.
Et vous l'avez toujours, hein. Il n'est pas parti après votre grossesse,
non,
Sabrina.
Non, c'est pas parti, c'est sur le front, une grosse tache brune.
Alors, ça s'appelle un mélasma, c'est le mot savant de ces taches, et elles sont en général soignées par les dermatologistes. Le secret, c'est d'utiliser une molécule qui a très mauvaise presse, qu'on appelle l'hydroquinone. L'hydroquinone, c'était la molécule qu'utilisaient beaucoup de patients de couleur à Barbès, à La Chapelle, pour essayer de blanchir leur peau. Et c'est aussi peut-être ce qu'a utilisé Michael Jackson. Et cet hydroquinone, utilisé à grosse dose, est cancérigène. Mais dans certains cas, lorsque l'on n'arrive pas, je dirais, à guérir ce mélasma par des traitements dermatologiques simples, il faut appliquer des crèmes à l'hydroquinone. Je vous conseille de vous rapprocher de votre spécialiste dermatologiste qui fera une ordonnance avec les dosages nécessaires de façon à ce que vous puissiez blanchir en quelque sorte ces taches foncées que vous avez sur le visage.
D'accord.
Et c'est dû à quoi alors ces taches, docteur Mix?
Mais en fait, j'ai eu deux grossesses qui se sont suivies. Et avant, j'en avais pas. Et pendant ma grossesse, je les avais pas. Et une fois que j'ai accouché, des taches brunes sont apparues
sur le visage.
Voilà. Alors, et ça me gêne énormément, quoi.
Je vous expliquais tout à l'heure que la peau, c'était un morceau de cerveau. Et quand il y a des stress chez certaines patientes, notamment chez des patientes qui ont une couleur de peau assez foncée, eh bien, il y avait une efflorescence de mélanocytes qui sortaient à la surface de la peau, un peu comme s'il y avait des fleurs qui s'ouvraient en corolle au niveau de la peau et qui donnaient ces taches qui ne partent pas malgré les traitements les plus simples. Il faut des traitements sophistiqués avec des molécules à manier avec prudence.
Est-ce que ça répond à votre question, Sabrina?
Très bien, merci beaucoup, docteur, merci beaucoup.
Merci, bonne route, Sabrina. Linda est avec nous. Linda, bonjour et bienvenue. Linda. Alors, Linda.
Allô?
Oui, bonjour, Linda.
Oui, bonjour. Je vous appelle au fait pour une question pour ma fille.
Oui.
Elle s'est scalifiée depuis l'âge de 13 ans. Elle a des coupures vraiment avec une lame ou des couteaux et tout souvent. Et maintenant, elle a beaucoup de cicatrices sur ses jambes et ses bras. Donc, j'aimerais bien savoir si ça part, si on peut...
Réparer les dégâts de la scarification. Alors, docteur Mix.
Ah, madame, votre histoire est bien compliquée et douloureuse, parce que ces scarifications, elles ont un sens psychologique important, et elles seront le témoin chez votre fille d'un état qui a été assez difficile à vivre. Mais oui, rassurez-vous, on peut les améliorer justement par ces techniques de multipiqûres, en faisant des petites piqûres, sans anesthésie d'ailleurs. On essaye petit à petit de les recolorer. Cela prend du temps, mais cela permet quand même une amélioration de la visibilité. On diminue la visibilité de la cicatrice blanchâtre, de façon à ce que ces cicatrices soient moins apparentes. Bien entendu, souvent c'est au niveau des avant-bras ou des poignets. Et ces patientes portent des bracelets aussi qui peuvent
pour camoufler
un petit peu ces cicatrices. Donc avec le chirurgien esthétique et le bijoutier, en général, on arrive à améliorer cette trop grande visibilité des cicatrices.
Ben, j'espère, oui, parce que là, c'est vraiment... Son corps, il est vraiment abîmé, hein, franchement.
Elle a quel âge, votre fille, maintenant, Linda?
Maintenant, elle a 17 ans et demi.
D'accord, donc elle est passée à autre chose et ça lui rappelle son passé, quoi,
oui.
Finalement.
Ouais. Oui, ben, même l'année dernière, elle l'a fait, donc je pense que... Il y a un an, donc la dernière fois qu'elle l'a fait, il y a un an.
Mais elle est suivie au niveau psychologique?
Oui. Elle était suivie depuis son jeune âge, depuis l'âge de 7 ans. Mais là, maintenant, on a tout arrêté parce que je pense que elle veut plus aller voir son psychologue, tout ça.
En tout cas, il y a des solutions, mais il faut que ce soit votre fille qui demande l'amélioration de ses cicatrices. C'est très important que ce ne soit pas vous qui lui imposiez, mais que le mouvement vienne d'elle-même, de façon à ce qu'elle mette une fin définitive à ses tentatives de scarification.
Oui, c'est ça, oui. Ben, je vous remercie beaucoup, hein, docteur, parce que là, merci beaucoup, hein, BRFM. Hein.
Merci, Linda, bonne route.
Allez, merci beaucoup, allez, au revoir.
Alors, je sais pas si le chirurgien esthétique peut répondre à ça, mais est-ce qu'il vaut mieux vivre avec ces cicatrices ou les effacer? Parce que est-ce que quand on efface la cicatrice, on efface le traumatisme qu'il y a derrière ou l'événement traumatique qu'il y a derrière ou finalement ça reste?
C'est très individuel comme réponse. Je vais vous donner un exemple. Quand nous faisons une diminution des seins chez une femme qui a une poitrine trop grosse, nous créons automatiquement des cicatrices autour de l'aréole, souvent une cicatrice verticale, une petite cicatrice horizontale, et on sait que ces cicatrices, elles vont persister, elles vont s'atténuer avec le temps. En général, au bout de 2 ans, on les voit peu, mais on les voit quand même.
On les voit peu, voilà.
On les voit peu, mais on les voit quand même. Mais ces patientes sont quand même très heureuses d'avoir été opérées. Dans le fond, c'est la forme de leur nouveau sein, le confort de la vie, qui prime sur l'existence des cicatrices. Il y a donc une part relative entre le bien-être de vivre et la cicatrice résiduelle qui dépend de chaque cas très particulier.
Mais qu'on soit clair, il n'y a pas de chirurgie sans cicatrice.
Il y a des chirurgies sans cicatrice, bien sûr, Philippe. Par exemple, les hommes qui ont des poches sous les yeux dès la naissance, qui arrivent à l'âge de 20 ou 25 ans avec des poches considérables, on passe par l'intérieur de la conjonctive pour enlever ces poches, pas de cicatrice. Il y a des opérations très importantes.
Mais c'est l'endroit, finalement, les paupières et les poches sous les yeux, ce sont les endroits qui laissent le moins de cicatrices, mais pour le reste...
Eh bien, à nous, en tant que plasticiens, de savoir comment dissimuler les cicatrices. Un des grands savoir de notre métier, c'est savoir comment faire les plus petites cicatrices possibles. Par exemple, pour mettre des prothèses mammaires, pour implanter, c'est très à la mode en ce moment, les femmes ont très envie, quand elles n'ont pas assez, d'avoir davantage. Eh bien, on peut passer par l'aisselle, par les plis que nous on a au niveau de l'aisselle, pour implanter des cicatrices, c'est compliqué, parce que ça consiste à meubler la salle à manger par la fenêtre de la cuisine. Donc il faut un tour de main, il faut être un peu magicien, mais c'est possible. Même aux États-Unis, on a essayé de faire des opérations par le nombril. En mettant des prothèses que l'on gonfle, on passe par le nombril, on met en place...
Pour aller jusqu'au sein.
Jusqu'au sein.
Il y a de la route à faire.
Il y a de la route à faire. Ah, c'est pour vous dire que toute la préoccupation du chirurgien plasticien, c'est tout le temps comment je vais faire le moins de cicatrices possible.
Naïma, vous êtes avec nous, bienvenue.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Je suis Naïma, je suis une sage-femme également. J'appelle pour avoir des infos concernant éventuellement la prise en charge de tout ce qui est ptose mammaire et diastasis, en fait, des grands droits
alors,
de mes patientes.
Diastasis, c'est quoi?
Alors,
c'est les écartements des abdos du fait de la grossesse.
Je vois que Naïma est très, très au fait des problèmes sociaux de notre spécialité. Les ptoses mammaires, cela veut dire que ce sont des seins tombants. Quand on dit ptose mammaire, ça veut dire que c'est un sein qui peut se vider et qui est tombant. Pas forcément, ça peut être un sein qui descend de plus de 4 cm par rapport au sillon. Pourquoi est-ce que c'est désagréable? Parce que la femme est obligée de mettre un soutien-gorge pour avoir un décolleté. Et c'est vrai qu'après 1, 2 ou 3 grossesses, il y a une modification des seins qui deviennent tombants. Le deuxième problème qu'elle signale, c'est l'écartement des muscles grand droit. Ce sont les muscles qui maintiennent c'est les tablettes de chocolat de l'homme, si vous voulez. Mais les femmes, elles ont aussi des muscles grand droit. Et à la suite des grossesses ou de la prise de poids importante, ces muscles s'écartent comme les barreaux d'une prison. Et donc, autrefois, il y a encore une 15aine d'années, ces opérations pouvaient être prises en charge par la Sécurité sociale au titre de séquelles après grossesse. Mmh. Mon maître Villain disait que c'est des accidents du travail. Mais voilà que oui. Les choses ont bien changé. La sécurité sociale est devenue...
Aussi, mais oui. Je ne retrouve plus toutes ces infos sur Internet et auprès de mes collègues. Du coup, je me suis posé la question de...
De savoir s'ils étaient toujours remboursés.
Alors voilà, malheureusement, la sécurité sociale court après les sous. Arrêtez, et donc, les ptoses mammaires ne sont plus remboursées par la sécurité sociale. Ne sont plus prises en charge. Même malgré une entente préalable, la sécurité sociale ne veut pas reconnaître que les grossesses ont abîmé la poitrine et elle ne veut pas cette réparation. De la même façon, c'est très difficile de prendre en charge le seul écartement des muscles grand droit. C'est-à-dire, nous rapprochons les barreaux de la prison pour qu'ils soient bien droits, pour que la femme retrouve un bon tonus. Ce que prend en charge la sécurité sociale, c'est l'éventration. C'est donc beaucoup plus grave Ça veut dire que les intestins vont sortir au travers de ces grands droits écartés et ce n'est pas très fréquent. Alors, bon, dans un certain nombre de cas, quand même en matière de chirurgie abdominale, de réparation, on fait ce qu'on appelle la procédure de l'entente préalable. C'est-à-dire que le chirurgien plaide pour la patiente sur un formulaire spécial. La patiente envoie le formulaire à son centre de sécurité sociale qui va la convoquer pour contrôler si c'est bien une réalité et elle donnera ou non son accord. Mais si le chirurgien demande trop de fois ou de façon exagérée cette demande, c'est le chirurgien qui sera puni.
Oui.
Voilà.
D'accord.
Mais en tout cas, ce n'est pas désespéré, mais ce n'est pas facile.
Et le diastasis, notamment, opéré afin éviter d'éventuels problèmes, de descente d'organes, etc.
Le diastasis, il y a eu des discussions récentes entre notre syndicat et la sécurité sociale, qui a dit que le diastasis n'était pas suffisant pour une prise en charge automatique par la sécurité sociale. Il fallait qu'il y ait une éventration ou une vraie hernie ombilicale.
Bon. OK. Et au niveau tarif, ça, vous ne pourriez pas me renseigner tout de suite. C'est bien sûr chirurgie indépendante, parce que moi, je travaille dans deux départements où malheureusement j'ai souvent des patients qui n'ont pas forcément les moyens aussi financiers.
Vous voulez un ordre d'idée, Naïma, ou un tarif précis?
Un ordre d'idée plutôt.
Ouais. Bon. Mais c'est des interventions qui vont entre 3 000 et 5 000 euros, ça dépend un petit peu des départements, des chirurgiens, de leur notoriété, de la complexité du cas aussi.
D'accord. Et le laser sur le périnée, ça vous connaissez ou pas?
Non, c'est pas du tout mon domaine, mais je doute que le laser fasse quelque chose, autant s'asseoir sur une marmite d'eau chaude.
Non, ça, là, cette fois-ci, ça n'a rien à voir, aucun lien vis-à-vis du diastasis ou d'autres manières, mais c'est plus le laser dans le but de, permettre aux patientes de retrouver, surtout celles qui sont ménopausées, un certain confort au niveau vaginal.
C'est-à-dire que le laser, il chauffe, donc il rétrécit un petit peu les tissus et il a été montré par un certain nombre de gynécologues qu'avec les années et les grossesses et les accouchements, il y avait une distension au niveau du vagin et du périnée et qu'il fallait peut-être faire des traitements pour les resserrer. Je doute un tout petit peu de la réalité de cette solution, mais ce n'est pas ma spécialité et je ne voudrais pas vous donner un avis qui ne soit pas vraiment circonstancié.
Je vous remercie en tout cas déjà. Merci beaucoup.
Merci pour vos questions, Naïma. Bon, pardon pour toutes celles qu'on n'a pas pu prendre. Vous reviendrez, on reparlera des cicatrisations. Vous parliez de votre maître Raymond Villain tout à l'heure qui disait qu'il avait coutume de dire que le chirurgien plasticien est un des rares qui sache jardiner le bourgeon charnu. C'est ce qui permet de constituer la cicatrice en fait.
Voilà, quand il y a une plaie, le corps va réagir. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des ouvriers qui amenaient des parpaings, c'est du collagène. Et ces différents parpaings montent, et parfois ils vont même trop haut. Et en montant trop haut, ils vont empêcher le phénomène d'épidermisation de surface. C'est-à-dire que ceux qui sont chargés de faire le goudronnage, n'y arrivent pas, parce que sur la route, il y a encore des débris. Et donc, l'art du chirurgien plasticien, c'est de savoir pourquoi il y a ces anomalies visibles et de faire le traitement, soit il s'agit d'une infection ou bien il s'agit d'un excédent de collagène. Il y a donc des traitements adaptés à apporter pour la cicatrisation.
Merci Vladimir Mitz d'avoir été notre invité aujourd'hui. Demain, je vous donne rendez-vous avec Nadia Elbouga et nous parlerons de la soumission.
Retrouvez À Votre Santé tous les samedis de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.